I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, épisode numéro 107. On est en juillet 2019 et je vais vous parler de... vous savez, Positron, c'est l'émission où on parle des trucs cool, de trucs qu'on recommande, de produits culturels, des séries, des films, des livres même de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Un livre que j'ai bien aimé, et enfin forcément hein, que j'ai bien aimé, et un film que j'ai bien aimé aussi. Le livre, c'est Tokyo Vice, et le film, c'est Spider-Man Far From Home. Et je ferai une petite partie spoiler à la fin pour ceux qui veulent ce genre de choses. Alors, commençons avec Tokyo Vice. De quoi s'agit-il ? Eh ben, c'est un livre, je ne sais même plus où j'en ai entendu parler, je crois que c'était dans un podcast, mais j'ai complètement oublié. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques mois, ou plutôt que j'ai écouté, parce que je l'ai écouté en audiobook, il était très très bien, qui est sorti en 2009. Et c'est un livre qui a été écrit par le premier journaliste non japonais qui a travaillé dans un grand journal japonais, le Yomiuri Shimbun. C'est un type qui s'appelle Jake Adelstein, qui est absolument passionnant parce que c'est un journaliste d'investigation qui a beaucoup travaillé sur le monde de la mafia japonaise à Tokyo, et comme l'indique le titre. Patrick, t'es fatigué, hein, faut vraiment que t'ailles en vacances. Et donc, oui, parce que j'enregistre avant les vacances, vous l'entendrez peut-être après les vacances, mais j'enregistre avant. Et donc, Tokyo Vice, il a investigué tout ce monde et il va vraiment dans le cœur de l'organisation des Yakuza de Tokyo. Et la raison pour laquelle ça m'a particulièrement plu, c'est à quel point je ne connaissais pas cet univers. Vous le savez, moi, je suis un grand amateur du Japon. J'ai vécu à Tokyo, j'ai vécu à Kyoto pendant plusieurs années. J'ai étudié le japonais assez longuement. C'est un monde et un pays qui me passionne. Et j'ai toujours eu une vision du Japon où, même au niveau des organismes mafieux, c'était quand même un petit peu des bisounours. Tout le monde est gentil, on est en sécurité partout. Et bon, la mafia, ok, ils sont sûrement méchants, mais même moi, les rencontres que j'ai pas eu vraiment de rencontres avec la mafia, mais on voit les mauvais garçons qui sont les tout petits membres des Yakuza qui traînent dans les quartiers malfamés. Et bon, sincèrement, ils sont pas méchants, ils se battent jamais, ils font un petit peu de bruit, mais si ils bousculent quelqu'un, c'est vraiment qu'il s'est passé un truc, quoi. Et c'est vrai que c'est un aspect de la société qui est caché parce qu'ils ont une sorte de code d'honneur qui fait qu'ils ne se cherchent des noises. Ouf, je suis vraiment âgé. Qu'ils ne se cherchent des noises qu'entre eux et donc ils ne vont pas emmerder les civils, entre guillemets. Mais et du coup, moi, je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de vraiment sérieux. Et ce journaliste plonge dans ce monde et il montre à quel point c'est une vraie mafia. C'est une mafia qui est violente, qui a ses différentes factions, qui se font une vraie guerre, comme on peut l'imaginer les mafias dans d'autres pays, hein, dans des pays européens ou autres, un petit peu comme dans les films. Alors, avec beaucoup de réalisme et de comment dire, il décrit tout ça avec sérieux. Il y a des moments qui sont un petit peu durs quand même. N'allez pas écouter ou lire le livre si vous êtes très sensible. Mais il a une rigueur, justement, je parlais de rigueur il n'y a pas si longtemps, dans son travail qui est absolument admirable. Et il décrit ce monde et les relations qu'il a eues avec ce monde de manière vraiment vivante. Il y a donc tout cet aspect investigation que seul lui, sur lequel seul lui pouvait écrire finalement parce qu'il est extérieur au monde du Japon, que ça influence. Et en même temps, évidemment, c'est un aspect hyper intéressant du livre et de son parcours parce qu'il parle de la manière dont il s'est... il a intégré le Yomiuri Shimbun et la société japonaise en général en tant qu'étranger. Il parle de tout ça et c'est un autre aspect qui est hyper intéressant dans le bouquin. Il parle donc à la fois de l'aspect mafia, yakuza, et de sa vie d'étranger au Japon. Et des relations qu'il a tissées, c'est très basé sur les relations, les erreurs qu'il a fait, la manière dont il s'est accoquiné avec certains membres de la police et de la mafia. Et il s'est vraiment mis en danger. C'est pas un spoiler, le livre ouvre sur une situation vraiment compliquée et il s'est vraiment mis en danger et il a côtoyé et il s'est lié d'amitié avec des gens avec lesquels il aurait pas forcément dû, et il en parle justement dans le livre, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est passionnant par son sujet, et bien sûr les meilleurs livres sont dans ce cas, il est passionnant par son sujet et par sa forme. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression de suivre un film d'enquête policière vraiment bien menée, parce que c'était sa vie, c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, le livre a été traduit en japonais, mais aucun éditeur japonais n'a accepté de le publier. Donc, c'est montrer à quel point ce qu'il a fait est un petit peu pose des problèmes au Japon. Et donc, voilà, c'est vraiment un bouquin d'une grande qualité que je vous recommande très chaleureusement. Ça s'appelle Tokyo Vice et c'est un livre de 2009. C'est un livre de Jake Edelstein, en fonction de la manière dont vous voulez prononcer son nom. Voilà pour Tokyo Vice d'une part. D'autre part, je voulais vous parler d'un film que je viens de voir, qui est sorti au ciné il y a quelques jours, au moment où j'enregistre. Donc, encore une fois, ça, vous risquez d'écouter cet épisode un petit peu plus tard. C'est Spider-Man Far From Home, la conclusion de la phase 4, de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe avec Spider-Man Peter Parker. Comme Peter Parker, qui est Spider-Man. Je ne sais plus ce que je dis, je suis fatigué. Je vais faire une toute petite partie sans spoiler, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont lu le film ou alors s'en foutent, ont vu le film ou alors s'en foutent. En gros, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime particulièrement, c'est que il met Peter Parker dans cette situation qui est complètement typique du personnage dans les BD, qui est que c'est pas un super-héros comme les autres et comme ceux qui ont existé jusqu'à la création dans les années 60 ou 70 de Spider-Man. C'est pas un super-héros qui veut être un super-héros, c'est un super-héros qui fait des actes héroïques parce qu'il se sent plein de cette responsabilité. Et ça interfère avec sa vie qu'il voudrait normale en permanence. Et c'est vraiment le point central de ce film-là. Et j'ai trouvé que c'était géré de manière vraiment habile et que c'est un aspect qui est trop peu souvent exploré dans les films de super-héros en général. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était pas mal foutu. Il y a, toujours sans rentrer dans les spoilers, j'ai trouvé que les relations évoluaient de manière intéressante. L'histoire, même si elle n'était pas incroyable, se déroulait de manière intéressante également. Et que C'est une évolution qui fonctionne pour le personnage et pour l'univers Marvel en général. Donc, au final, c'est pas le meilleur film Marvel de l'histoire, hein, là non plus, mais c'est une bonne bouffée d'air frais après un Endgame qui était particulièrement lourd. Là, c'est pas que c'est uniquement joyeux, mais c'est un, comme le premier, c'est un film d'ado avant être un film de ou disons autant que c'est un film de super-héros. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment rafraîchissant, et c'est l'une des qualités qu'on a dans ces films Marvel, c'est qu'ils réussissent. Évidemment, si c'était à chaque fois le même film, sur 22 ou 23, on commencerait à en avoir marre. Je suis sûr que certains d'entre vous en ont marre de toute façon. Mais c'est une des forces qu'ils ont, c'est qu'ils font des films de styles très différents. Et celui-là, comme le premier Spider-Man, dans la même veine, on va dire, c'est un film qui est agréable et rafraîchissant, et c'est une bonne touche pour finir cette phase 3. Et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans la phase 4, sachant que très bientôt, on va avoir la Comic-Con aux États-Unis et qu'on risque d'avoir des détails là-dessus. Là encore, quand vous entendez cette émission, peut-être que c'est déjà le cas. Donc moi, là, je suis encore dans l'expectative. Donc voilà pour la mini-discussion sans spoiler sur Spider-Man Far From Home. D'ailleurs, le prochain, si vous avez une idée pour le titre, Home Improvement, Google Home, etc., vous pouvez les suggérer à Marvel. Et donc, on va passer à la partie avec spoiler à partir de dans 3 secondes. Donc, partez si vous ne voulez pas les spoilers de Spider-Man. Allez, 3, 2, 1, spoiler. Franchement, je vais vous dire ce qui s'est passé dans la salle à la fin du film entre moi et ma femme. On s'est retourné l'un vers l'autre comme on le fait toujours. Alors, t'as aimé ? Moi, je dis ouais, franchement, c'était sympa, j'ai bien aimé. Et ma femme qui me dit écoute, non, moi, c'est la première fois qu'un film Marvel ça marche pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment mal écrit. Le personnage de Nick Fury, il fonctionne vraiment pas. Il fait des trucs complètement idiots. Et du coup, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ça faisait amateur, quoi. C'est presque une fanfiction de Spider-Man, ça m'a pas du tout plu, au point que je suis pas sûr de vouloir voir la suite. Et là, pour moi, évidemment, mon cœur qui s'arrête un instant, genre, oh, mais ça veut dire que je vais devoir voir les films MCU tout seul. Bon, ça va, je me remettrai. Hein. On a quand même fait jusqu'à Endgame. C'est ça qui était important. On arrive jusqu'à Endgame. On finit la phase 3 ensemble. Après, tout ce qui se passe après, même si les films ne deviennent pas bien, c'est pas grave. On aura toujours ces 22 ou 23 premiers films. Mais donc, on était dans la salle pendant le générique et on se disait, bah, OK. Enfin, elle n'était pas convaincue. On se demande si on reste, s'il y a une scène post-générique à la fin. Et je regarde sur Internet, oui, il y en a une, ok, on se rassoit et on regarde. Et là, la scène que vous connaissez évidemment, avec Nick Fury et Maria Hill, qui sont révélés étant les Skrulls, Talos et sa femme, plutôt que les vrais, et Nick Fury qui est quelque part dans l'espace, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Et là, alors d'une part, pour moi, c'était invraisemblable, un niveau de retournement, de signification de tout le film, ou en tout cas d'une partie du film, comme j'en ai rarement. Ça redit ce qui se passe dans le film en une seconde, en une révélation, de manière hyper forte. Et d'un autre côté, tout à coup, ça explique pas tout ce qui avait posé problème, mais ce qui avait posé problème à ma femme. Parce que ça devient cohérent dans cet univers. Bien sûr, il y a toujours des choses qui nécessitent qu'on suspend our disbelief dans les films de super-héros, mais il y a certains trucs qui peuvent être gênants. Et ben là, le truc qui était gênant, en fait, s'explique totalement. Et toutes les conneries que fait Nick Fury dans le film, parce que clairement, moi, je me disais, ouais, bon, franchement, c'est pas le Nick Fury le plus brillant qu'on ait vu depuis le début du MCU. Moi, je me disais, les auteurs, ils étaient pas très en forme quand ils ont écrit ces scènes-là. Et ben, en fait, non, pas du tout. C'était, alors, je sais pas s'ils l'ont rajouté à la fin. Moi, je pense que c'était voulu dès le début. Et ça fonctionne complètement. Et du coup, on regarde ça, on sort de la salle. Et moi, j'étais bouche bée. Et ma femme se retourne vers moi. Elle me dit, tu sais quoi, en fait, cette dernière scène, elle sauve presque le film. Du coup, ça en fait quelque chose de correct. Elle est toujours pas fan du film, mais elle dit, c'est pas si mal, en fait, ça va. Et du coup, peut-être qu'elle voudra bien voir la suite. Et cet aspect de la fin du film a été vraiment... bon, comme pour vous, j'imagine, mais ça a été un moment de folie dans ma tête, quoi. C'était mind blown. Donc, cet aspect, je voulais en parler en premier parce que c'est pour moi le plus gros... retournement peut-être de tous les films du MCU. Et au-delà de ça, j'ai trouvé l'ensemble du film franchement pas mal foutu. Je pense que tout le monde savait en allant dans la salle que Mysterio était un méchant. Et donc tout le monde attendait le moment où on allait révéler que c'était un méchant. Et en fait, c'était juste... Au moment où je commençais à me dire peut-être que non, mais non, quand même, c'est un méchant, et ben c'est là que ça se révèle. Alors, le monologue d'exposition où il explique tout, j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu malhabile, mais vraiment pour le coup, parce que c'est vraiment le méchant qui explique son truc. Et je trouve que l'excuse de on fait un toast, on lève notre verre à notre plan qui a marché, fonctionne pas totalement. À côté de ça, le fait qu'il montre les différentes personnes qui étaient dans les films, enfin en l'occurrence il y a surtout ce scientifique qui a cette scène dont tout le monde se souvient avec Jeff Bridges qui lui dit Tony Stark managed to build this in a cave with a bunch of scraps. Tout le monde se souvient de cette phrase. Il l'a dit d'une manière tellement forte. Et on se souvient du type qui recule face à Obadiah Stane dans le premier Iron Man. Et le fait de le ramener ici, c'est fait avec tellement d'intelligence et de malice, en fait. Et ils font un truc que Marvel a réussi à maîtriser dans ses mélanges de films et sa création d'un univers continu, c'est de vous récompenser pour votre implication dans leur univers. Et là, vraiment, si on n'a pas vu Iron Man 1, bah, ça reste OK, bon, c'était un scientifique, mais si on l'a vu, comme dans plein d'aspects du film et de tous ces films, eh ben, on en retire quelque chose de plus et ça nous fait sourire un petit peu plus que si on ne les a pas vus. Donc, cet aspect-là est vraiment malin, et puis la manière dont ils ont réussi à faire en sorte que Mysterio, qui est le maître des illusions, soit quand même le maître des illusions grâce à toute cette technologie, et là encore, hyper malin. Et au final, alors je pense pas que ça tienne à 100%, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres dans ces illusions dans les films, mais ça tient suffisamment pour qu'on puisse se dire « Ok, j'accepte. Pourquoi pas, j'accepte. » Et c'est quelque chose de vraiment... ça semble, comme dans beaucoup des films Marvel, ça semble un acquis une fois que c'est fait, comme le fait de rendre Iron Man cool ou Spider-Man... Captain America cool ou Thor cool. Mais c'était pas gagné du tout. Et là, le super-vilain le plus loufoque, peut-être... Bon, je suis sûr qu'il y en a des pires, mais l'un des plus loufoques de tout l'univers de Marvel, eh bien, ils se sont dit... Non, non, on y va et on va réussir à faire en sorte que ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne pas trop mal. Donc, l'aspect, l'arc du méchant, je dirais que dans l'ensemble du film, il y a quand même beaucoup trop de choses qui se passent et qu'il y a plein de choses qu'on passe très rapidement. Et c'est un petit peu dommage, mais je comprends, le film est déjà un petit peu long. Bon, il y a plein de choses qui doivent être passées un petit peu rapidement et ça me gêne pas beaucoup, beaucoup plus que ça. Surtout que, encore une fois, l'aspect principal du film, ça reste Peter Parker qui essaye de juste d'avoir des vacances, quoi. Il veut juste avoir un petit break après avoir été dans l'espace, après avoir perdu son mentor. D'ailleurs, oui, cet aspect, à quel point ça repose sur Tony Stark, ça me dérange un petit peu. Dans le premier, on se disait, bon, c'est pour amener les gens au ciné. Là, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. L'ombre de Iron Man qui plane sur tout le film, y compris avec les méchants, y compris avec l'héritier, y compris avec sa disparition. Ça fait quand même beaucoup. Là encore, c'est pas un truc qui casse le film pour moi non plus, mais Je comprends que ça devient un petit peu lourd au bout d'un moment. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas non plus trop appuyer sur ça jusqu'à, pendant trop longtemps. Mais le parcours de Tony, de Peter Parker, qui veut juste avoir des vacances, il veut juste un break de ses responsabilités de super-héros, ça fonctionne hyper bien. Et je trouve ça vraiment bien retranscrit, surtout que, comme je le disais, c'est un aspect important du personnage dans les comics. La relation entre Peter et ses potes et surtout MJ, je trouve qu'elle fonctionne super bien. MJ était un petit peu, c'est pas qu'elle était caricaturale dans le premier, mais on aurait pu la voir partir dans quelque chose d'un petit peu trop exagéré. Et ben en fait non, elle est très bien écrite, elle est très bien jouée. Moi, je trouve qu'elle a pas assez de temps à l'écran. Je la trouve vraiment super bien, Zendaya. Elle est l'actrice, elle est parfaite dans ce qu'elle essaye de faire. Et je trouve le personnage vraiment intéressant. La manière dont elle est construite avec sa personnalité, elle a vraiment un caractère, une personnalité, c'est hyper bien construit et c'est dommage qu'on n'en voit pas un petit peu plus, j'espère que ça arrivera à l'avenir. Et leur relation se construit super bien et la manière dont ces deux adolescents se tournent autour fonctionne et ils vont pas trop loin, c'est pas genre il y a des quiproquos et des ça devient pas vaudevillesque quoi ou vaudevillien. Ça reste quand on veut une résolution et ben, il pousse jusqu'à ce qu'on se dise « Bon, là, il faut qu'il y ait une résolution. » Et il nous donne la résolution. Et donc, c'est très bien dosé, au final. Et tous les personnages autour, bah, ça fonctionne aussi. Le prof est marrant. La manière dont il parle du blip, bah, ils ne savent pas que c'est un snap des doigts, quoi, que c'est un claquement de doigts. Donc, il l'appelle le blip. Et la manière dont il parle des Avengers au début du film, c'est hyper bien foutu avec ce montage un petit peu ridicule qu'ils ont fait dans l'école. Les implications du snap sur lesquels on se posait tous des questions, genre, est-ce que les gens qui reviennent, ils reviennent genre au milieu de rien et effectivement, les gens qui étaient dans un avion, bah ils sont sans doute apparus au milieu de l'air et ils sont tombés, ils sont morts, enfin c'est horrible, mais ils disent, bah oui, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. La femme, c'est la femme du prof, je crois, qui a prétendu avoir disparu avec le snap, alors qu'elle était pas vraiment, elle avait pas vraiment disparu parce qu'elle voulait juste quitter son mari, enfin c'est plein de petits aspects qui là encore nous disent bah oui, vous qui êtes fan et qui pensez à tous ces trucs, on y pense aussi, on a des réponses pour vous, même si on va pas forcément explorer ça plus que ça, bah on vous fait un petit clin d'œil et on sait ce à quoi vous pensez et ce que vous dites et ce dont vous discutez sur les forums et sur Internet et sur Twitter et tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu, réussi par tous ces aspects. Encore une fois, tout ne monte pas au firmament des meilleurs films du MCU, mais ça fonctionne suffisamment pour en retirer un certain plaisir. Donc, voilà, je crois que j'ai pas vraiment oublié d'aspect... Ah si, bien sûr, le fait que on révèle l'identité en première scène mid-générique de Peter Parker. Ah là, c'était vraiment un moment what the fuck complet, qui d'ailleurs, le film se termine sur le what the fuck de Peter Parker, de la même manière qu'il se terminait sur un what the fuck de Tante May pour le premier. Et évidemment, le retour de J. Jonah Jameson avec J.K. Simmons, qui était J. Jonah Jameson dans les films de Sam Raimi. Au-delà des histoires qui sont un petit peu anecdotiques de univers parallèle, est-ce qu'ils sont tous dans le même multivers, etc. Ok, pourquoi pas. Et au-delà de ça, c'est certainement le meilleur acteur au monde qui aurait pu faire J. Jonah Jameson et il est de retour avec cet aspect fake news justement qui est hyper intéressant et qui montre, c'est bizarre comme aujourd'hui on vit dans un monde de fake news, comme J. Jonah Jameson à l'époque avait été créé sur cette même optique et à l'époque ça semblait un petit peu exagéré, aujourd'hui ça passe complètement et ce personnage qui semble être un petit peu à la Alex Jones de InfoWars aux États-Unis, bah du coup il est complètement crédible et ça pose plein de questions pour l'avenir de Peter Parker Spider-Man et du MCU en général. C'est quelque chose d'inattendu. Moi, j'aurais bien aimé que Peter Parker reste anonyme pendant encore un petit moment, mais bon, j'imagine qu'il faut aussi faire avancer l'histoire et je suis très curieux de voir où ils vont aller. J'espère qu'on en saura plus à la Comic-Con et qu'on va voir comment surtout ils vont intégrer les X-Men, les Fantastic Four, etc. J'espère que la collaboration entre Marvel et Sony va continuer ad vitam ou qu'ils vont récupérer les droits à un moment pour ne jamais se séparer de Spider-Man. C'est une ouverture sur ce qui va se passer dans le prochain Spider-Man, puisque Marvel a encore un contrat pour en faire au moins un. J'imagine qu'ils vont renouveler vu à quel point ils gagnent de l'argent avec ces films du côté de Sony aussi. Donc c'est une ouverture pour ce que ça va être qui du coup nous lance un petit peu vers l'inconnu, quoi. Donc c'est excitant par cet aspect également. Donc voilà, vous l'avez compris. C'est un thumbs up pour moi, ce Far From Home. Même si, encore une fois, je l'ai dit 12 fois, mais ce n'est pas forcément le meilleur film de l'histoire, ni le meilleur des films Marvel. Mais bon, j'ai quand même pas mal apprécié. Et je serai heureux de le revoir quand je serai arrivé à la fin de ma session de revisionnage de tous les films du MCU avec ma femme, qu'on a entamé il y a quelques semaines. On en est à Iron Man 3. Le prochain, je crois, c'est Thor 2. Bon, Iron Man 3, j'aime beaucoup, mais Thor 2, il est un petit peu moins bon quand même, on va dire. Donc, et puis, on arrive après à tous les aspects vraiment qualitatifs de ces films-là. Mais bon, je serai heureux de le revoir après tout ça quand on y arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois. J'espère que vous avez apprécié ces deux petites discussions. Je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous souhaite soit de bonnes vacances si vous écoutez par le podcast privé du Patreon et que vous êtes encore au début des vacances, si vous soutenez le Rendez-vous Tech et donc que vous avez accès à cet épisode un petit peu en avance, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis si vous écoutez dans le flux Positron classique et que on arrive peut-être au milieu ou à la fin des vacances, j'espère que vous aurez une bonne rentrée et je reviens bientôt. Moi aussi, c'est la rentrée pour moi aussi très bientôt, donc on se retrouve dans les prochaines émissions. Je vous fais de grosses grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Don't walk,